Bon, bah, vous êtes dans le groupe des 13-16 ans. Moi, c'est Joseph. Et vous pouvez m'appeler Jojo.
Je vous laisse.
Oui, allez-y.
Faire toutes ses affaires à la colo. Ah bon, et il revient avec la valise vide.
CO2, mon amour.
Dans les chambres, il y a des gigognes.
Des gigognes, oui, bien sûr, madame. Oui, c'est la faune locale du Périgord, ça. Il y a aussi des tourterelles, des albatros et des chouettulottes. Et on a même aperçu un tapir une fois. Il est passé dans un buisson.
Avec Denis Chessou.
Vous êtes le chauffeur?
Ah non, je suis le conducteur.
Enfin, le conducteur, c'est pas le problème. Je suis Madame Marciano. Ça va?
Ça va, oui.
Oui. Vous êtes en forme?
Oui.
Vous êtes embrouillé avec votre femme, ça va? Non, je vous dis, c'est parce qu'il y a mon fils Steve avec vous dans le train. Partout. Je vous laisse mon portable. Passez-moi un petit coup de fil en arrivant. Hein? Vous êtes mignon.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec aujourd'hui Paul Percheron à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Henri-Marc Mutel qui réalise cette première émission de CO2 My Love. Avec une petite humeur subjectivement animale, ours des Pyrénées, le gouvernement et François de Rugy ayant peut-être eu peur d'une manifestation d'ours mâles, eh bien, a bien confirmé à Pau, la peau de l'ours, c'est amusant, la décision de Nicolas Hulot de réintroduire deux ours femelles dans les Pyrénées, car même sur les clubs de rencontres, eh bien, nos mâles désespérés n'en trouvaient pas. Deux femelles ursidées relâchées, une preuve que la parité est en pointe et que ça commence par les Pyrénées. Et puis tenez une jolie fable, le faisan et l'enfant, et pas si joli que ça. On ne sait plus quoi faire pour nous faire plaisir, nous amadouer, nous fourrer tout chaud dans la grande gibecière électorale. Et qu'on nous offre le permis de chasse à 200 euros, bientôt à 1 euro, on l'espère. L'ouverture en juillet, les chasses présidentielles, le silencieux au canon, le retour du tir au grand tétras, dont on attend toujours la résurrection par chez nous. Qu'on est enfin reconnu comme les seuls vrais gestionnaires de la nature et qu'on veut, enfin à partir du moment de ce que l'on veut bien laisser de faune sauvage. Et que le président de la région Hauts-de-France nous offre même un radar ornithologique à 200 000 euros que même les écolos gauchistes les plus fanatiques n'ont jamais osé rêver pouvoir se payer. Donc un radar super pointu pour compter les canards qui restent à Auxire, mais pas les plombs qui polluent, les plans d'eau. Ah ouais, on est plus gâtés que les rois du pétrole de schiste. Alors pourquoi se gêner? La chasse sportive tenait aux volailles relâchées la veille, en fauteuil depuis le salon. Allez hop! Une fillette de 10 ans pique-niquait avec sa famille dimanche 16 septembre sur les bords de la Vienne à Limoges. Elle a été grièvement blessée au thorax par un chasseur qui tirait de chez lui sur un faisan. Opérée en urgence, la police a indiqué que l'auteur du tir, âgé de 69 ans, avait le courage et la franchise, avec le courage et la franchise qui caractérisent nos premiers écologistes de France, s'est d'abord montré récalcitrant avant de finalement reconnaître les faits. Le journal Sud-Ouest rapporte aussi que dans le village du Lot-et-Garonne, une balle à gros gibier a traversé de part et d'autre le salon d'une habitation. L'auteur du tir a courageusement disparu dans la nature. Donc on remercie notre président de prêter une oreille si attentive à Thierry Coste, lobbyiste des chasseurs et des détenteurs d'armes à feu. Grâce à ce soutien actif, eh bien, les chasseurs français vont pouvoir multiplier leurs exploits. Alors certes, je le répète, parce qu'il faut être objectif, on ne s'agit pas de tous ces enfournés dans la même cartouchière. Donc on va encore appeler ça une méprise, un fait divers, les fédérations présentent leurs excuses, mais font-elles le ménage parmi les premiers écologistes de France? Et que pouvait bien faire à cette heure une fillette de 10 ans, de l'autre côté du jardin de ce brave con, juste dans l'axe de tir aussi? Ah, on se le demande, ça, les parents sont à gifler. Et d'ailleurs, vous retrouverez aussi cet article détaillé dans Mediapart sur le blog de Jean-Paul Richier. Alors, maintenant, nous allons bouger. Oui, je bouge, tu bouges, nous avons plus ou moins la bougeotte. Cela s'appelle donc la mobilité. Je vis par exemple à Angers et travaille à Paris, comme Camille Blanès, ma collaboratrice TGV. Un week-end en Croatie, à Venise, vous ferez plaisir, hop, un avion. Je vais faire 3 courses en ville, alors à pied, vélo, trottinette et même voiture. Bah ouais, pour 1 km, pourquoi pas. Mon maillot Coupe du Monde de foot fabriqué pour 3 euros par Nike, vendu 90 euros, made in là-bas, vient par bateau comme plus de 85% des marchandises mondiales. Mobilité. Tenter d'arriver à la neutralité carbone en 2050 avec nos injonctions contradictoires, dépolluer les poumons des villes ou de la vallée de l'Arve, consommer moins d'énergie tout en conservant la liberté de circulation des humains, des biens, des services, bien sûr, la tâche est rude. Alors, c'était enregistré donc jeudi. La ministre des Transports est arrivée à l'heure comme 95% des TGV. Bonjour Elisabeth Borne. Et dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que les transports et la mobilité disent de nous ?
Bonjour. Je pense qu'ils disent beaucoup de notre société, notamment sur l'attention qu'on peut porter à certains Français qui ont beaucoup de difficultés à se déplacer. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est un Français sur quatre qui refuse un emploi parce qu'il n'a pas de solution pour s'y rendre. C'est pareil sur la formation. Donc voilà, ça dit un enjeu quand même de cohésion de notre pays, de cohésion des territoires aussi. On sait qu'on a une partie de nos territoires qui sont mal reliés aux grandes villes, aux grands axes, et que ça peut être aussi un frein au développement économique. Et en ce moment, le secteur des transports et de la mobilité est en pleine révolution, avec à la fois la révolution digitale et puis bien sûr la transition écologique qui nous oblige à prendre les problèmes différemment.
Oui, à prendre différemment, c'est-à-dire qu'il y a quand même des choix, il y a des arbitrages qu'il faut faire.
Oui, il y a des arbitrages qu'il faut faire et je pense que c'est aussi une chance. C'est une façon de repenser la mobilité autrement, avec une vision plus sobre, plus économe en ressources, tout en répondant aux besoins essentiels de chacun.
Elle me dit, fuis le miroir, garde l'espoir, suis le tour, regarde devant, fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment. Elle me dit, fuis le miroir. Le jour, et la nuit, le jour, et la nuit, elle me dit, fuis la colère, regarde derrière, garde l'espoir. Fuis la consigne, garde l'élan, garde la ligne, suis le moment, garde l'élan. Elle me dit, fuis la colère, le jour et la nuit. Et la nuit. Un jour découvrir. Et puis devenir. Un jour découvrir. Puis devenir. Le jour. Never walk away. Le jour.
C'était qui ? Eh ben c'était Gaëtan Roussel, oui, choisi par Thierry Dupin, notre programmateur. C'était le jour et la nuit.
Vous allez être content de votre bagnole, là ? Ah oui, c'est bien, faut pas être difficile. On entend bien le moteur, hein ? Moi, je dis, on se rend bien compte qu'on n'est pas en panne, quoi.
CO2, mon amour, sur France Inter.
Alors c'était donc aujourd'hui le dernier jour de la semaine de la mobilité et Elisabeth Borne, donc vous présenterez au Conseil des ministres fin octobre cette loi sur la mobilité avec un point fort, les infrastructures. Plus de 13 milliards donc dédiés à cela, beaucoup pour les voies ferrées. Et en fait, nous avons été pendant très longtemps shootés au grand projet et ça semble fini. Je dis bien ça semble. Que souhaitez-vous faire, Madame Borne?
Alors les infrastructures, l'idée c'est qu'elles sont au service d'une politique de mobilité. On ne fait pas des infrastructures pour le plaisir de belles inaugurations. Et c'est pour ça que dans cette approche que moi je porte, on est reparti des besoins. Et c'est au service de ces besoins de mobilité, et spécifiquement des déplacements de tous les jours, que moi je place cette politique en matière d'infrastructure.
C'est-à-dire que l'on va renforcer, on va réparer, on va améliorer ce qui existe déjà?
On va sortir d'une fascination que vous avez mentionnée pour les très grands projets. Je pense que le rôle de l'État, ce n'est pas simplement de faire des promesses. En plus, si elles sont non financées, comme ça a été le cas par le passé, ça crée aussi beaucoup de doutes chez nos concitoyens, chez les élus. Donc c'est de sortir de ces promesses non financées, de partir des besoins, de s'engager sur ce qu'on sait réaliser, et puis aussi donc cette priorité au transport du quotidien, parce que tous les jours on va au travail, on va se former, on a besoin d'accéder aux services. Et aussi une conviction forte, c'est que on doit d'abord entretenir, oui, maintenir en bon état ou bien remettre sûr en bon état les réseaux existants. On doit en tirer le meilleur parti, justement avec la révolution digitale qui permet par exemple de mettre plus de trains sur une ligne ferroviaire avant de penser à faire des nouveaux projets.
Concrètement pour nos concitoyens, c'est-à-dire que par exemple des nœuds ferroviaires comme du côté de Bordeaux, du côté de Toulouse, Bercy, la gare de Lyon, donc ça ce sont des priorités, mais ça veut dire aussi que vous allez abandonner d'autres projets. Tenez un exemple, celui de la A45 avec le doublement de l'autoroute Lyon-Saint-Etienne, 48 km. Actuellement, donc, elle est gratuite. La nouvelle serait donc payante avec une concession de Vinci. Ça fait quand même plus de 1000 hectares de terres arables qui sont menacées. Est-ce que ça, par exemple, vous allez pouvoir aider ou est-ce qu'on en est de ce côté-là?
Alors, c'est un exemple intéressant. Je pense qu'il y a une certitude, c'est qu'il y a des besoins. Il faut améliorer les déplacements entre Lyon et Saint-Étienne.
À part que le préfet refuse de débattre des alternatives au grand jour actuellement.
Donc il faut améliorer les déplacements entre Lyon et Saint-Étienne. Il y a beaucoup d'habitants à Saint-Étienne qui veulent aller travailler à Lyon et qui peuvent passer beaucoup de temps dans les embouteillages. Ce qu'on peut regretter, et ce que je regrette, c'est qu'il y ait aussi peu de voyageurs sur la ligne ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. Et donc je pense que c'est vraiment très caractéristique de l'approche que moi je veux développer. Partons des besoins, ne nous enfermons pas dans des réponses qui peuvent, pour certaines, dater de plusieurs décennies, et essayons de trouver la réponse la plus juste, qui tire parti des infrastructures.
Alors, réponse
existantes.
Le décret de concession aujourd'hui quand même sur votre table, la déclaration d'utilité publique est valable jusqu'en juillet 2020. Où en est-on? Est-ce qu'on a déjà une tendance à l'abandon ou bien à le faire?
C'est un projet, vous l'avez évoqué, qui n'est pas du tout neutre en termes d'environnement, qui a un impact aussi très important sur les espaces agricoles, les terres agricoles, dont les conditions de raccordement sur Lyon ont finalement été bouleversées, puisque cette autoroute devait se brancher sur un contournement de Lyon, un contournement ouest de Lyon, qui a priori n'est plus d'actualité. C'est un projet qui pose des questions, qui est loin de faire l'unanimité.
Bon, on n'a pas la réponse, là. On l'a pas encore.
Je rencontre, vous savez, actuellement les présidents de région.
Oui, tout à fait.
Et on aura l'occasion d'en parler, mais vous aurez compris que ma priorité, c'est de bien utiliser les infrastructures existantes.
Je prends l'autre exemple. La ligne ferroviaire Lyon-Turin, donc plus de 57 km. Là, on est évidemment transfrontalier. C'est aussi une infrastructure européenne. Je veux dire que le point commun avec un EPR, c'est que le coût réel est impossible à chiffrer aujourd'hui. On parle de 26 milliards. Ça, c'était quand même l'évaluation du Trésor en 2012. Il y a de graves oppositions aussi en Val-de-Suse. On va nous dire, bien sûr, qu'on peut rejoindre Milan en 4 heures. Mais où en est-on de ce projet extrêmement gourmand? Alors là, pour le coup, en capitaux.
Alors, c'est un projet qui est forcément coûteux, hein, puisqu'il s'agit de faire un tunnel comme nos voisins italiens l'ont fait avec la Suisse ou avec l'Autriche, qui, par ailleurs, jusqu'à présent, est conçu aussi avec des investissements très importants pour les accès. On a eu l'occasion, le président de la République avait eu l'occasion de dire l'an dernier, lors du sommet franco-italien, que la France tiendrait ses engagements, mais s'interrogeait sur les accès. Aujourd'hui, nos voisins italiens se posent aussi des questions sur ce projet.
Il y a un changement politique aussi.
Voilà. Et c'est un sujet qui est débattu au sein du gouvernement italien. Donc, pour l'instant, nous attendons de connaître la position des Italiens sur le dossier.
Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter un homme qui s'appelle Maxime Huret, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'université de Perpignan. Et là, c'est un sujet aussi qui intéresse tout le monde, c'est la gratuité des transports. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment absolument en débat, qui va arriver sûrement aussi pour les municipales donc, de 2020. Aujourd'hui, on a 31 réseaux gratuits en France, 39 aux États-Unis, 50 dans le monde, et donc un tout récent qui a eu lieu donc, à Dunkerque. Bonjour à vous, Maxime Huret.
Bonjour.
Alors Maxime Huret, racontez-nous s'il vous plaît.
Oui, tout à fait. La gratuité des transports collectifs, ça ne date pas d'hier, hein, puisque le premier réseau en France a été inauguré en 1975 à Compiègne. Et on peut dire que depuis, il y a de plus en plus de villes qui passent à la gratuité de leurs transports collectifs et que le phénomène s'est accéléré ces dernières années. Hein. On a eu des exemples assez retentissants, marquants. Alors on peut citer Châteauroux en France en 2001. Ensuite, Aubagne, toujours en France, en 2009. Et puis, la plus grande agglomération d'Europe à avoir installé les transports gratuits, Tallinn, en Estonie, hein, 450 000 habitants, en 2012. Ça a été quand même une expérience retentissante qui a commencé à faire réfléchir autour de cette question de gratuité des transports collectifs. Et puis, en France, récemment encore, hein, Niort en 2017. Et cette année, Dunkerque, qui adopte la gratuité totale de leurs transports collectifs. Donc, Dunkerque, 200 000 habitants, ce qui est tout à fait significatif. Il faut savoir, pendant très longtemps, on pensait que cette gratuité était réservée à des petits réseaux. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus de grands réseaux, de grandes villes s'y intéressent.
Alors, des personnes vont vous dire, oui, mais attention, ceci peut coûter cher, ça va faire augmenter, booster les impôts locaux.
Alors non, aucune ville n'a augmenté les impôts locaux en passant à la gratuité des transports collectifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une palette de financement qui s'offre aux collectivités aujourd'hui, en tout cas en France, hein, pour financer cette mesure. Ça peut aller déjà d'une allocation de ressources publiques, un choix politique d'allouer des ressources supplémentaires aux transports collectifs. Donc ça a été le choix de Dunkerque, par exemple. Hein. Le maire de Dunkerque aime à dire qu'il n'a pas construit de grand stade ou rénové sa mairie, mais il a préféré mettre en place les transports collectifs gratuits. Mais on a également des dispositifs qui peuvent permettre de financer cette mesure, comme le versement transport, hein, qui est une taxe pour les entreprises de plus de 11 salariés qui permet de financer les transports collectifs. On peut augmenter son taux dans certaines villes, et ça permet de financer une telle mesure. D'autres solutions existent. On peut penser à affecter directement les recettes du stationnement automobile vers ce type de mesure de gratuité, ou encore dans les plus grandes villes, hein, mettre en place un péage urbain pour directement financer une telle mesure. C'est ce qui est en réflexion à Paris, je crois.
Tiens, voilà mon bus. Je suis pas à l'heure. Bonjour, monsieur le contrôleur. J'ai pas de ticket. Il faut payer. C'est pas gratuit. Ce serait sympa.
Alors Maxime Huret, maintenant, pourquoi on met en place cette gratuité ? Quelles sont en fait les différentes visées ?
Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est pour de multiples raisons. Il y a d'abord des raisons économiques liées au système de transport. On se rend compte que notre système de transport n'est pas assez efficient, il ne transporte pas assez de personnes. Et puis pour améliorer la mobilité des personnes les plus précaires, les plus en difficulté sur son territoire.
Donc lutter l'exclusion par la mobilité, et puis quand même, oui. Dunkerque, il y a un chiffre qui est de 4,5 millions de pouvoir d'achat qui seraient rendus par an à la population grâce à cette gratuité.
Oui, tout à fait, parce que les recettes de la billettique à Dunkerque couvraient 4,5 millions d'euros dans le financement total des transports, mais c'était très faible en fait sur l'ensemble du fonctionnement du réseau, puisque ça représentait moins de 10% du financement total du réseau de transport collectif. Et puis, on peut aussi choisir de passer à la gratuité pour des raisons environnementales. Je crois qu'aujourd'hui, on en parle énormément, hein, des questions écologiques. C'est un choix important d'ouvrir les transports au plus grand nombre pour favoriser le report modal de la voiture vers le bus, vers les transports collectifs. Et les villes qui réfléchissent à passer à la gratuité, finalement, vont agréger l'ensemble de ces raisons. J'en rajouterai une dernière, une raison économique, qui est l'attractivité de son territoire. Évidemment, quand on a des transports gratuits sur son territoire, on est attractif auprès des touristes, on peut redynamiser son centre-ville. On va attirer aussi des entreprises, hein, comme ça a été le cas à Châteauroux, qui vont s'implanter directement sur ce territoire pour bénéficier de cette mesure et que ça bénéficie à leurs salariés.
Maxime Huret, d'une manière générale, qu'est-ce qui vous semble intéressant dans l'effervescence du transport, on va dire? Alors, il y a quand même des choses qui bougent. C'est vrai qu'on parlait pas de covoiturage il y a encore une dizaine d'années. Le vélo a été ringardisé de manière folle pendant des années. Maintenant, ça y est, ça revient. On est à 3% seulement d'utilisation, on va dire, du vélo dans le transport au total. Mais quelle est votre analyse par rapport à cela?
À travers l'exemple de la gratuité des transports collectifs, moi, je vois vraiment qu'on est en train de changer de modèle dans les transports collectifs, hein, avec la gratuité, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la gratuité, c'est plus qu'une politique de transport et de mobilité, c'est une politique globale, environnementale, sociale, économique. Deuxièmement, l'approche va être différente parce qu'on va plus mettre en place de tarification sociale. On va plus stigmatiser non plus les usagers en fonction de leurs caractéristiques sociales, entre guillemets. Hein, on va vraiment, ça va être une mesure universelle qui va être ouverte au plus grand nombre. Donc, ça, c'est aussi un changement important dans l'approche des transports collectifs. Et ça va avoir des effets sur la manière de vivre aussi la ville, de se déplacer dans la ville, de vivre la ville avec un petit peu plus de convivialité. Hein, c'est ce qui a été remarqué à Dunkerque. Hein, les chauffeurs de bus qui étaient très réticents au début pour passer à la gratuité, aujourd'hui se rendent compte que cette mesure, quand même, elle apporte un apaisement dans les éventuelles tensions qu'il peut y avoir dans les transports collectifs.
Alors, il n'y a pas de bagarre dans les bus, parfois?
Non, dans les bus, franchement, tout le monde est chaud, mais il n'y a pas d'embrouille.
Est-ce qu'on a pu constater qu'il y avait de la dégradation supérieure, ou bien pas du tout, avec cette gratuité, tout bêtement, parce que parfois, lorsqu'on dit c'est gratuit, donc le gratuit, ça ne vaut rien, quoi?
Alors là, non, c'est vraiment une idée reçue et un argument presque idéologique, hein, de se dire que les services qui sont payants ont plus de valeur que ceux qui sont gratuits. C'est totalement idéologique. Nous, ce qu'on a observé, alors à la fois à Châteauroux, hein, il y a eu une baisse significative du vandalisme depuis 2001, et à Dunkerque, en l'espace de 2 ans, le vandalisme, en tout cas les dégradations dans le bus, ont régressé de 60%. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a plus de monde dans les bus. Donc le contrôle social est beaucoup plus important. Les gens se regardent, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors que quand il y a 2 ou 3 individus seuls dans le bus, et c'est plus facile de passer à l'acte d'une dégradation, tout simplement.
Maxime Huret, c'est vrai qu'aujourd'hui, on laisse globalement beaucoup, beaucoup de parts financières aux régions, aux collectivités. Et dans ce domaine des transports, sur la gratuité, est-ce qu'il y a une aide nationale ou pas?
Alors en France, non, mais dans d'autres pays, il y a des réflexions où il y a des aides qui sont déjà votées. Alors en Estonie, le gouvernement central a accompagné la mise en place de la gratuité des transports collectifs à Tallinn. Le gouvernement fédéral allemand vient d'annoncer le financement de futures expérimentations de gratuité des transports collectifs pour lutter contre la pollution dans certaines grandes villes. On pourrait imaginer qu'en France, le gouvernement puisse financer des expérimentations pour certaines villes qui souhaiteraient mettre en place la gratuité des transports collectifs dans certains contextes. Je pense à Grenoble pour faire diminuer la pollution atmosphérique, ou dans d'autres villes comme Clermont-Ferrand pour accompagner, je ne sais pas, la mobilité des étudiants. Donc voilà, on pourrait, à travers différents objectifs, pourquoi pas proposer un financement national. Ce serait une bonne idée, oui.
Alors Maxime Huret, pour aller, vous, en tant que maître de conférence, donc à l'université, pour venir ici dans les studios de France Bleu, à Perpignan, que nous remercions, vous êtes venu comment? En patin à roulettes, en trottinette, en comment?
Et non, j'habite un petit peu plus au sud de Perpignan. J'ai pris le train plus le vélo, parce que c'est très efficace.
Grand merci à vous, Maxime Huret, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Maxime.
Merci.
Maintenant, tu es prévenu. La prochaine fois, tu prendras le bus.
Notre ministre des Transports, Elisabeth Borne, écoutait donc ce son avec Maxime Huret. Alors, sur cette fameuse gratuité, je sais que vous avez été donc PDG de la RATP. Qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème-là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire?
Offrir un service de transport public, ça n'est pas gratuit. Donc, quand on dit les voyageurs ne payent pas, ça veut dire que quelqu'un d'autre paye. Donc, ça veut dire que ce sont les impôts. Moi, j'entends ce qui a été dit par ce monsieur. Le versement transport, c'est un impôt, c'est une taxe sur les entreprises. En Ile-de-France, les entreprises, par exemple, financent 50% des coûts du transport public. Je pense que si on veut poser le débat dans sa totalité, c'est le choix de faire payer le contribuable, en l'occurrence les entreprises, plutôt que le voyageur. Donc, posons ce débat dans ces termes-là.
Ça dépend peut-être aussi de la densité, des villes, etc.
Clairement, les situations ne sont effectivement pas les mêmes. Ouais. Par exemple, j'entends des villes moyennes, des petites villes, qui ont des réseaux de bus qui sont peu remplis, qui se disent, c'est une occasion de mieux remplir ou de favoriser l'utilisation des bus. Je pense que si on prend le cas de l'Île-de-France, les franciliens qui prennent les transports le matin ont bien constaté que les transports sont bien utilisés.
Sont pleins.
sont pleins, sont pleins. Je pense qu'on peut le dire.
On peut féminiser, là.
Donc du coup, je pense qu'il faut faire attention à bien dire quels impôts on propose de substituer. Peut-être faire attention aussi, hein, parce que le versement transport, et moi je discute avec les entreprises, il faut pas considérer que c'est une recette magique. Hein. À la fin, c'est une charge. Et donc, du coup, ça peut poser aussi des enjeux de concurrence, de compétitivité pour nos entreprises. Et puis, quand les transports sont pleins, a priori, ça ne paraît pas être la bonne solution. Mais peut-être de façon un peu plus philosophique, si je peux dire, enfin, on paye insuffisamment le transport. Le transport, c'est du carbone, du CO2. Le transport, c'est du travail. Et à force de vouloir un transport gratuit, il faut aussi réfléchir au modèle de société qu'on est en train de promouvoir. Le transport de marchandises, je pense, bien souvent, et à l'échelle de la planète, ne paye pas ses coûts, ne paye pas ses coûts environnementaux, et peut aussi s'accommoder d'un certain dumping social.
Puisque vous parlez donc de carbone, 8 milliards de subventions au transport routier, on essaye d'avoir une neutralité carbone en 2050, auquel d'ailleurs les scientifiques ne croient pas véritablement. On a une tonne de carbone, enfin un prix aujourd'hui qui est quand même extrêmement bas. Comment on arrive à réunir tout ça ?
Alors c'est un très gros volet oui. De la loi que je porterai à la fin octobre, d'avoir une mobilité plus propre. Et donc ça passe par un ensemble de dispositifs. D'abord d'avoir des véhicules moins polluants, hein, c'est tout le sens de la trajectoire qui a été annoncée dans le plan climat avec la sortie des ventes de voitures thermiques à horizon 2040 et donc l'accompagnement de nos filières industrielles qui prennent ce signal à leur compte et qui réfléchissent à des motorisations de plus en plus propres. C'est l'accompagnement avec des dispositifs de bonus pour les véhicules moins polluants. C'est aussi la prime à la conversion pour aider les Français à passer à des véhicules moins polluants. C'est tous les aussi les poids lourds hein, qu'on accompagne enfin vers des motorisations au gaz ou à l'électricité, l'utilisation des alternatives à la voiture ou les mobilités partagées dans les voitures. On aura aussi des mesures pour encourager le covoiturage, parce qu'évidemment si on est à trois dans une voiture, et ben par personne on émet trois fois moins
de CO2. Sûr. Oui, puis on peut discuter, etc. Mais ça veut dire aussi que les entreprises peuvent prendre une part du covoiturage.
Tout à fait. Hein. Vous savez que le Premier ministre a présenté un plan vélo vendredi dernier et on souhaite encourager l'utilisation du vélo parce qu'en plus c'est bon pour la santé.
C'est très bon.
Et du covoiturage. Et donc on met en place, on proposera aux entreprises de mettre en place un forfait mobilité jusqu'à 400 euros pour chaque salarié, sans charge sociale, sans impôt.
Mais il n'y a pas d'obligation là. Tandis qu'il va y avoir une obligation pour les fonctionnaires d'État, c'est-à-dire
l'État,
là, ça sera jusqu'à 200 euros.
L'État montre l'exemple en le mettant en place pour ses salariés à hauteur de 200 euros.
Donc ce sera un forfait, hein. C'est pas au nombre de kilomètres, ce sera beaucoup plus simple parce qu'avant c'était un peu compliqué. Donc...
On a voulu faire quelque chose de simple, effectivement sortir de ce qu'on avait avant sur le vélo, l'indemnité kilométrique vélo.
Donc 200 pour les, on va dire pour les fonctionnaires et 400 pour les salariés.
Jusqu'à
400, mais il n'y a pas d'obligation, ça va être j'allais dire, à la discrétion des...
D'abord, on donne un exemple, on pense que ça donnera des bonnes idées, et puis c'est vraiment un enjeu du dialogue social dans les entreprises. Par ailleurs, on facilitera, donc je disais, le covoiturage, notamment avec des voies réservées pour le covoiturage, avec la possibilité de donner des avantages, par exemple pour le stationnement des gens qui font du covoiturage. Donc c'est pas l'État qui fait tout seul. Évidemment, si on veut progresser dans ce domaine, il faut que chacun se saisisse de ce sujet, les collectivités, et on est dans un domaine où c'est les collectivités qui sont en première ligne et qui ont les responsabilités, mais on leur donne une boîte à outils pour avancer, les entreprises qui peuvent vraiment jouer un rôle important pour améliorer la mobilité de leurs salariés, les associations qui ont été très contributrice dans l'élaboration de la loi que je présenterai prochainement.
Et d'ici donc 3 minutes, on va se retrouver du côté de Belfort avec une initiative positive.
Never.
C'était les pétillants et fulgurants Parcels Light and Up sur France Inter.
CO2 mon ami avec Denis Chessot.
Bonjour monsieur, gendarmerie nationale, contrôle des papiers du véhicule. Alors on se range sur le bas-côté, on coupe le contact, on baisse la musique et on écrase la cigarette bizarre.
Sur France Inter.
Toujours avec la ministre des Transports Elisabeth Borne. Alors je vous le dis, parler d'une initiative positive. Donc cap sur l'Est, on va aller à Belfort, joli et petit département par sa surface. On est au pied du ballon d'Alsace. Alors maintenant c'est Bourgogne-Franche-Comté, mais on est un peu plus en Franche-Comté quand même. Marc Rovigo, vous êtes le directeur général d'Optimo. Optimo, c'est le réseau des transports en commun de Belfort. Et vous avez créé une application originale qui relie bus, vélo, voiture. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de posséder une voiture. Racontez-nous.
Comme le disait Madame la Ministre tout à l'heure, c'est l'addition d'une multitude de décisions qui font qu'à un moment donné, on va pouvoir basculer vers une offre de mobilité plus propre. Alors c'est vrai que nous, on a aussi une AOM qui est au niveau du département.
Vous faites la traduction parce que l'AOM, on ne sait pas ce que c'est.
Une autorité organisatrice de mobilité. Voilà. Donc on est en charge de l'organisation de la mobilité pour tout le département. Donc en gros, on a fait la loi NOTRe dès 2009 à Belfort et on a voulu proposer une offre universelle, simple à utiliser. Et pour ce faire, on a créé le Pass Optimo. Donc c'est un badge qui est distribué gratuitement à toute la population qui en fait la demande.
Alors qu'est-ce que cela me permet pour circuler sur le territoire de Belfort ou chez vous ?
Eh ben, ce pass, il est totalement en post-facturation, c'est-à-dire que vous ne payerez que ce que vous avez consommé. Vous n'avez pas d'abonnement à payer, vous n'avez pas de caution à nous donner. Enfin, c'est la liberté la plus totale. Par contre, vous pouvez avec ce badge prendre le bus, le vélo ou la voiture à volonté, et vous serez facturé en fin de mois en fonction de votre consommation réelle.
Donc vous réunissez le tout sous cette même application.
Tout à fait.
Donc chez vous, c'est quand vous parlez de voitures, c'est quoi ? C'est des voitures donc de...
Autopartage.
Autopartage.
Oui, on a une offre d'autopartage pour la ville de Belfort, qui est, je pense, par rapport au poids de population la plus dense de France. On a 80 voitures pour une population de 50 000 habitants. On a fait un quadrillage de la ville, et en gros, à 500 mètres de chaque habitation, vous allez trouver une voiture. On a mis trois types de voitures, une petite berline, une voiture familiale, un break et un utilitaire, de façon à répondre à la totalité des usages. Le but était pour nous, si vous voulez, d'avoir une offre de transport en commun de bus à haut niveau de service, où on a des lignes de 7 à 15 minutes pour la ville de Belfort, en complément une offre de vélos assez dense puisqu'on a 250 vélos pour la ville, et pour les déplacements qui ne peuvent pas se faire ni en bus ni en vélo, les gens ont la liberté d'avoir une voiture.
Donc ça veut dire que le merveilleux Lyon va pouvoir prendre soit le bus, soit le vélo, soit la voiture, et comme ça tout le monde sera content, et accessoirement évidemment les habitants de Belfort. Réaction aussi, parce que ça je pense que ça vous plaît, ces inventions de billettique.
Je vous confirme, bravo monsieur, je crois que c'est exactement ce qu'on souhaite encourager, avoir effectivement une billettique et donc une façon de payer l'usage des transports qui soit la plus facile possible et qui permette de passer du vélo au transport en commun, d'avoir de l'autopartage quand on en a besoin. Et donc on va là aussi donner des nouveaux outils aux collectivités dans le cadre de la loi des mobilités pour d'abord avoir toutes les informations sur le temps réel, les données en temps réel, qui seront en open data dans des formats utilisables par tous pour faire de l'information multimodale. Donc vous pourrez regarder sur votre smartphone et savoir quelle est la meilleure option pour vous. Et puis aussi faciliter, encourager les autorités organisatrices, donc les collectivités, pour qu'elles puissent proposer des billettiques intégrées du type de ce qu'on vient de voir sur Belfort. On a la même chose en Bretagne. La Bretagne a maintenant une carte Corrigo qui permet d'accéder au TER, au transport urbain de toutes les métropoles et des agglomérations en Bretagne. Et je pense que c'est comme ça qu'on aide à se passer le plus possible de la voiture individuelle.
Se désintoxiquer.
Le sport que je préfère, c'est le vélo.
Alors récemment, vous avez présenté donc ce plan vélo, donc avec l'ambition de faire passer la mobilité à vélo de 3% à 9% en 2024. On est très en retard par rapport à plein de pays européens. Bon, on essaye d'avancer là-dessus. 10 à 15% quand même des trajets se font en voiture sur moins de 1 kilomètres. 40% sur moins de 2 kilomètres. Bon, alors il y a quand même dans ce plan 50 millions par an d'investissement sur 7 ans pour sécuriser donc nos concitoyens sur des pistes et aussi éviter de se faire piquer son petit vélo. Ça, ce sont, on va dire, nos deux peurs principales. D'ailleurs, nous attendons et nous militons à Radio France pour avoir un vrai garage à vélo, hein, hashtag ma présidente à vélo. Alors, quelle est, madame la ministre, la philosophie de ce plan?
Alors, l'objectif, c'est vraiment que le vélo devienne un mode de déplacement à part entière. Et pas simplement considéré comme un loisir, c'est un mode de déplacement à part entière. On a des progrès à faire, hein. Vous avez rappelé la faible part que le vélo a dans les déplacements, alors que, comme vous l'avez indiqué, près de 50% des déplacements font moins de 5 km. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a une marge de progression très importante. Et moi, je suis très attachée à ce qu'on développe le vélo, parce que c'est un mode simple, c'est un mode peu coûteux, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour la santé. On est beaucoup à avoir une vie trop sédentaire et donc de pouvoir avoir ce qu'on appelle des mobilités actives.
On a une épidémie de sédentarité. Hein.
Oui, absolument. Et donc des mobilités actives, je pense que c'est aussi très important. Et donc c'est pour ça que pour la première fois, l'État s'engage vraiment au travers de ce plan vélo. Jusqu'à présent, l'État disait oui, c'est très bien le vélo, mais c'est pas tout à fait mon affaire.
Là, ils s'en fichaient globalement.
C'était voilà, ça. Peut-être pas, mais en tout cas, ils considéraient que c'était pas à lui de se saisir du sujet. Ça fait un an que moi je travaille avec les associations qui sont très actives dans ce domaine. Je voudrais leur rendre hommage, hein, Olivier Schneider de la FUB, voilà, Pierre Cerne pour les villes et territoires cyclables. C'est vraiment en partant là encore des besoins. Qu'est-ce qui freine aujourd'hui l'utilisation du vélo en France?
Eh ben, d'avoir des infrastructures dédiées, c'est-à-dire effectivement vraiment des pistes cyclables, pas forcément des bandes cyclables, et puis de ne pas se faire piquer son vélo. Quoi.
Je vous le confirme, donc du coup c'est pour ça qu'on va mettre
vélos
en place...
quand même volés tous les
ans.
Oui.
Donc c'est pour ça qu'on va mettre en place un fonds vélo de 350 millions d'euros. L'État ne va pas se mettre à faire les pistes cyclables partout en France, mais il va accompagner les collectivités, notamment pour arriver à surmonter les discontinuités qu'on a trop souvent dans les itinéraires.
Toutes les ruptures qui sont terribles.
Voilà. Par exemple, quand vous arrivez devant du mauvais côté de la gare et puis que vous n'avez pas la passerelle qui vous permettrait de rejoindre la gare en vélo.
Et puis j'ai vu que votre collègue M. Blanquer allait peut-être aussi donc apprendre aux enfants du primaire à faire du vélo.
Tout à fait. D'ici 2022, on va généraliser le savoir rouler. Vous savez que à l'entrée en 6e, il faut savoir lire, écrire, compter. Il faut aussi savoir rouler. C'est non seulement savoir faire du vélo, mais aussi apprendre les règles de la sécurité routière. Et puis, effectivement, un des autres freins, c'est le vol. Et donc, on va à la fois généraliser le marquage des vélos, ce qui veut dire que ça évitera qu'on puisse revendre des vélos volés. On pourra identifier les vélos et développer les garages sécurisés, notamment dans les gares. C'est évidemment, quand on vient le matin à la gare en vélo, on souhaite le retrouver le soir.
Mais
donc on va.
Est-ce que vous allez coller un impôt ou une taxe sur les vélos?
Ah non, nous n'allons pas mettre de taxe sur les vélos. Non, nous voulons encourager l'utilisation du vélo. Non,
c'est intéressant.
Quand tu causes vélo, c'est comme si moi je causais élevage de poules, tu connais que dalle. Alors
j'ai tout de même vu passer le Tour de France pas plus tard que cet été en haut de l'Isère, à part ça.
Oui, c'est bien ce que je dis, tu connais que dalle, tu confonds tout.
On voit aussi qu'on est, tous plus ou moins schizophrènes, mais on nous dit vous allez être livré en 24 heures en deux clics sur le net et après. Bah, on a aussi des congestions, on a quand même des livraisons, on a des entrepôts de logistique qui se construisent à peu près partout, jamais très loin donc d'une entrée d'autoroute. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'urbanisation urbaine, c'est avant tout la construction de ces entrepôts qui bouffent beaucoup de terrain. Donc comment faire entre cette rapidité dont on aurait supposé, on va dire, besoin, et puis en même temps, les livraisons, limiter l'énergie, limiter le carbone.
Moi, je souhaite vraiment que les villes, les métropoles s'emparent de ce sujet, et notamment au travers des dispositifs des zones à faible émission. Ça fait partie des sujets sur lesquels elles pourront agir. Ensuite, ça questionne aussi notre comportement, comme vous disiez, en tant que consommateur. Est-ce que c'est bien raisonnable de commander en voulant être livré dans les deux heures?
De vouloir tout et n'importe quoi,
Voilà, tout de suite. Et effectivement, on a des chiffres qui sont quand même assez effrayants. Hein, quand on voit qu'au lendemain du Black Friday, la grande solde sur Internet, on a 1 million de colis qui ont été livrés le lendemain dans Paris. Enfin voilà, on ne va pas multiplier les livraisons de colis par des camionnettes peu remplies pendant qu'on essaye par ailleurs d'encourager les personnes à prendre de plus en plus des transports
propres. Dont une partie au noir. Je reviens sur une chose. La ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse, qui ferait gagner d'ailleurs entre Bordeaux et Toulouse. En général, on a vu entre 20 et 25 minutes, pas forcément plus. Où est-ce qu'on en est, celle-là ?
Alors, vous avez mentionné le fait qu'on va faire une programmation des infrastructures dans laquelle le budget consacré aux investissements dans les transports va augmenter de 40% dans le quinquennat. Hein. On sera à 13,4 milliards d'euros contre 9 milliards dans le quinquennat précédent, mais avec des priorités très fortes sur l'entretien, la remise en état de nos réseaux, sur plus d'offres ferroviaires dans les grands pôles, dans les grandes villes, sur un sujet qui me tient aussi à cœur, qui est le désenclavement de notre territoire. On a encore des villes moyennes qui sont mal reliées.
Oui.
Et donc, on va consacrer 1 milliard dans les 10 ans qui viennent.
Donc, ce ne sera pas une priorité. C'est ce que j'entends.
En effet, les priorités, c'est celles que je viens d'énoncer.
Voilà, donc ça peut
plus
pas être...
la mobilité propre et active et le fret fluvial ou ferroviaire. On ne renonce pas à faire des grandes liaisons TGV, mais dans une perspective phasée, en réalisant progressivement ces infrastructures et en commençant par quelque chose qui me semble de bon sens, par les gares. Vous savez qu'on a eu l'occasion, le président de la République avait inauguré à l'été dernier la nouvelle ligne avec la Bretagne. On a branché 2 nouvelles lignes TGV sur la gare Montparnasse. On a eu ensuite pas mal d'incidents dans cette gare. Quand on fait les choses dans l'ordre, c'est d'abord moderniser les gares, les nœuds ferroviaires, où on a des risques d'incidents si on ne modernise pas prioritairement ces gares.
Ils n'avaient pas doublé la sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule possibilité qui a sauté. Elisabeth Borne, dans les transports de tous les jours, alors, on ne revient pas sur Notre-Dame-des-Landes, ok, c'est un projet complètement dément qui datait de 50 ans. En même temps, vous êtes pour une relance des aéroports régionaux avec Édouard Philippe. Donc là, racontez-nous, qu'est-ce que vous voudriez faire avec ces aéroports régionaux ?
Alors, on ne va pas construire des nouveaux aéroports régionaux,
non,
hein, je vous
en ai compris.
Rassure.
Vous avez
moi,
pas vous
je
mettre
note,
là-dedans.
Non, mais je note que, on l'évoquait, hein, on a des villes en France qui sont très mal reliées au reste du pays, au reste de l'Europe, et pour qui avoir une liaison efficace avec Paris ou avec Lyon, où on a un hub qui peut redistribuer sur l'Europe, est un enjeu majeur. Je pense que c'est important, par exemple pour des villes comme Limoges, comme Brive, comme Aurillac, de pouvoir avoir ces liaisons aériennes qui les connectent...
Mais qui soient quand même moins chères qu'aujourd'hui, peut-être
ou... Alors avec, effectivement, ce qu'on appelle les liaisons d'aménagement du territoire, donc un accompagnement de l'État, une prise en charge par l'État et par les collectivités du déficit de ces lignes.
Mais ça veut dire que Limoges-Paris ou bien Brive-Paris, ça va quand même diminuer d'un point de vue ferroviaire enfin...
Au contraire, hein, on va moderniser aussi la ligne ferroviaire, oui. La ligne Paris-Orléans-Limoges-Brive en l'occurrence. Donc ce n'est pas en concurrence avec le ferroviaire, mais quand vous habitez à Aurillac, vous pouvez vouloir travailler avec un partenaire
Aurillac,
allemand
compliqué.
Et
oui.
Avoir un vol pour aller, par exemple, à Francfort. De la même façon, quand vous êtes à Limoges, vous pouvez vouloir travailler avec des Italiens et avoir un vol qui va vous passer par Lyon. Donc je pense que c'est important, c'est une liaison d'aménagement
du territoire. Ce serait Galocost, ça ?
Oui, c'est des compagnies, ce n'est pas l'État qui va faire les vols. Il y a des compagnies qui vont faire ça très bien, mais je pense qu'il faut qu'on encourage ces solutions, qui sont des alternatives, je pense, très efficaces aux grandes infrastructures qu'on a pu promettre par le passé, par exemple une ligne à grande vitesse entre Poitiers et Limoges. Moi, je pense qu'on va moderniser la ligne Paris-Orléans-Limoges-Brive et par ailleurs assurer une connexion au territoire et à l'Europe avec ces liaisons d'aménagement du territoire.
Et alors en même temps, le kérosène n'est pas taxé, vous le savez, et il y a quand même une taxe carbone qui va arriver, qui va augmenter. Donc c'est peut-être, je sais pas, c'est un peu un étrange pari sur l'avenir, ça, non ?
Alors, le transport aérien, c'est évidemment une activité mondiale. Hein,
et... Augmentation de 6% par an, actuellement.
Oui,
c'est énorme.
Et donc, du coup...
4% c'est... des émissions de gaz à effet de serre, mais ça va monter.
Ben, c'est un secteur qui doit, comme tous les autres, prendre sa part de la réduction des gaz à effet de serre. Il y a eu un accord au niveau international, hein, l'accord CORSIA, qui prévoit un plafonnement des émissions de gaz à effet de serre au niveau de 2020 et ensuite une réduction des consommations. Donc ce secteur, avec d'autres mécanismes, aura aussi à prendre toute sa part dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Alors, je ne résiste pas évidemment à cette question qui est facile, qui va vous taquiner. On vous a vu en photo donc, pour l'inauguration du plan vélo avec De Rugy, puis après vous êtes reparti en voiture donc, à l'hôtel de Roquelaure. Bon, je sais bien pour des questions de sécurité, il y a ça aussi qui joue, mais vous-même, vous êtes une adepte de quel type de mobilité?
Alors moi, je suis une adepte des transports en commun. Ouais. À Paris, on a un excellent réseau,
ce qu'il faut, exactement.
Très bien exploité. Et puis effectivement, du vélo, quand je peux, c'est-à-dire dans le quotidien de ma vie de ministre, ce n'est pas totalement simple.
Non, ce n'est pas simple.
Et aussi de la course à pied, ce qui fait beaucoup de bien. C'est une autre forme de mobilité active que j'apprécie beaucoup.
Oui. Bon. Mais qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui possible assez vite?
Enfin, moi, il y a une solution qui peut vraiment être efficace à court terme, c'est le covoiturage. Donc on va vraiment tout faire pour encourager le covoiturage, pour une raison simple, je vous le disais, c'est quand on a 3 personnes par voiture, on a 3 fois moins de voitures. Donc c'est des leviers de ce type-là qu'on va multiplier.
Mais là, c'est quoi? C'est du cognitif, c'est du psychologique, c'est du porte-monnaie, c'est tout en même temps?
C'est le forfait mobilité dont on parlait tout à l'heure, pour reconnaître le covoiturage comme l'équivalent du transport en commun, puisque vous savez que les employeurs remboursent les abonnements de transport en commun. Il faut faire la même chose pour le covoiturage, qui est une autre forme de transport partagé. C'est les voies réservées pour le covoiturage, donner un avantage à ceux qui font du covoiturage. Et ça, c'est des choses rapides. C'est pas comme les grandes infrastructures qu'on promet pour dans 20 ans et qui ne sont pas toujours financées. C'est des améliorations concrètes qu'on peut apporter, je pense, pour chacun.
Est-ce que vous croyez que notre belle et jeune génération donc, va pouvoir passer, elle, c'est-à-dire de casser complètement le paradigme de la propriété, on va dire, d'une voiture individuelle, qui était une reconnaissance sociale donc à une certaine époque. Je crois que les jeunes aujourd'hui s'en foutent complètement. Maintenant, à un usage.
La situation est très différente quand on est dans des grandes villes.
Et quand on est en ruralité, évidemment, où là, on n'a pas d'autres solutions.
Voilà, et effectivement, je pense que dans les grandes villes, on devrait renoncer tous progressivement à avoir une voiture. Dans les zones qui sont plus éloignées des grandes villes, je pense que l'enjeu, c'est d'éviter la deuxième voiture et de faire que l'utilisation de la voiture soit le plus partagée possible.
Pourquoi d'ailleurs sur les compteurs des voitures, il y a encore marqué 220 km/h?
Oui, c'est pas la vitesse autorisée sur les routes, je confirme.
Ah, d'accord. Au revoir Elisabeth Borne et à très bientôt.
Au revoir Denis Chessoux.
CO2, mon amour.
Moi, je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature.
Denis Chessoux.
Moi, je préfère les marcher.
Sur France Inter.
Le jour se lève et j'irai bien chanter. Avec le verre d'à côté, déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais, par la fenêtre ouverte triomphe. Les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et elle ferme les yeux. Oh, mon amour, la belle heure pour s'aimer. L'aurore tant fort fait couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte.
Bell, rolling on.
Catherine Ringer sur France Inter. Mais oui, elle est la bienvenue dans CO2, mon amour, comme plein de chanteurs. Tenez, source de réjouissance sur France Inter, ce sera demain matin, donc à 9h, ce sera Interception. Sur quoi? Ouais, le chlordécone. Alors là, c'est un vrai scandale d'État, donc ami Antillais, là, vraiment, on vous plaint, parce que cette affaire n'est pas terminée. Et au répondeur, 01 56 40 40 35, allez, nous partons dans le Trièvre, on est dans l'Isère, c'est très très beau.
Bonjour CO2, bonjour les amours. Je vous appelle d'une terre un peu spéciale, belle et vivante, le Trièvre. C'est ici qu'on a bloqué une autoroute. On a terre vivante et 25% de fermes en bio. On se bat pour notre train, la transition en acte, c'est chez nous. Je vous invite. Les 21, 22 et 23 septembre, on fait une super fiesta. Ça s'appelle « Quelle foire !» tout un programme. Il y aura des champignons, Marc du Fumier, des grands repas en commun. Plein de visites, Paul Ariès, des dizaines d'exposants, une conférence gesticulée, je peux pas tout vous dire. Allez sur le site www.quellefoire-trièvre.fr, je répète, www.quellefoire-trièvre.fr. À bientôt.
Ah oui, le Trièvre, ça fait partie quand même de ces territoires où ils sont un petit peu en avance. Mais ce coin-là de l'Isère l'a toujours été. Ça sent la fin, dites donc. Merci à Paul Percheron. Merci aussi à notre ministre. Évidemment qu'on n'a pas pu tout dire. Tous les sujets n'ont pas été balayés, je le sais. Si vous m'écrivez en me disant « Ah ben, vous n'avez pas parlé forcément du fluvial, vous n'avez pas... » Oui, on le sait, c'était voilà, c'est un peu la règle aussi du jeu. Mais il y aura d'autres sujets que nous aborderons de nouveau dans cette émission, indépendamment donc de la ministre. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanas, c'est Henri-Marc Mutel qui réalise l'émission. Merci à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. Le répondeur 01 56 40 40 35, possibilité de réécouter l'émission. Avec le podcast, vous en avez l'habitude, rediffusion entre 5h et 6h du matin. Semaine prochaine, Arnaud Daguin, que vous connaissez, eh ben, il sera donc notre invité. Et puis après les petits bateaux, ce sera la tulle du bon petit loup. Ce sera demain à 19h54.
CO2 Mon Amour avec le WWF. Ensemble, agissons pour stopper le réchauffement climatique. Rendez-vous sur www.fr.